un hommage à Jean-Claude Carrière à travers son roman « La controverse de Valladolid ». C'est un roman écrit à la fin du XXe siècle, en 1992, sur une controverse qui eut lieu en 1550. Il s'agit d'une réécriture moderne de cette histoire. Elle pose le problème de la véritable nature des Indiens et de la possibilité ou non de les assimiler à des hommes. L'histoire se déroule donc en 1550 dans un couvent de Valladolid. Plusieurs questions concernant les Indiens du Nouveau Monde doivent être traitées avec le plus grand sérieux et le plus rapidement possible. En effet, des rumeurs sur le mauvais traitement de ceux-ci se répandent en Europe et cela dérange le roi d'Espagne. C'est alors que deux hommes débattent longuement en présence d'un légat du pape et d'un représentant de Charles Quint. L'un est un philosophe, traducteur d'Aristote, nommé Sepúlveda. L'autre est le fameux dominicain Las Casas, protecteur des Indiens. Les questions étudiées sont : les Indiens du Nouveau Monde ont-ils une âme ? Descendent-ils d'Adam et Ève ? Les arguments sont nombreux et recherchés. Pour pouvoir traiter ces questions avec plus de facilité, le légat du pape fait venir d'Amérique une famille indigène. C'est sur cette famille qu'on va expérimenter leur capacité ou non à ressentir un sentiment humain. La décision est prise au bout de 4 jours. Cette décision va changer le sort de dizaines de millions d'hommes pour des siècles et des siècles, mais pas forcément pour les hommes que l'on croit. Extrait de La controverse de Valladolid. Éminence, les habitants du Nouveau Monde sont des esclaves par nature, en tout point conformes à la description d'Aristote. Cette affirmation demande des preuves, dit doucement le prélat. Sepúlveda n'en disconvient pas. D'ailleurs, sachant cette question inévitable, il a préparé tout un dossier. Il en saisit le premier feuillet. D'abord, dit-il, les premiers qui ont été découverts se sont montrés incapables de toute initiative, de toute invention. En revanche, on les voyait habiles à copier les gestes et les attitudes des Espagnols, leurs supérieurs. Pour faire quelque chose, il leur suffisait de regarder un autre l'accomplir. Cette tendance à copier, qui s'accompagne d'ailleurs d'une réelle ingéniosité dans l'imitation, est le caractère même de l'âme esclave. Âme d'artisan, âme manuelle pour ainsi dire. Mais on nous chante une vieille chanson, s'écrie Las Casas. De tout temps, les envahisseurs, pour se justifier de leur mainmise, ont déclaré les peuples conquis indolents, dépourvus, mais très capables d'imiter. César racontait la même chose des Gaulois qui la servissaient. Il montrait, disait-il, une étonnante habileté pour copier les techniques romaines. Nous ne pouvons pas retenir ici cet argument. César s'aveuglait volontairement sur la vie véritable des peuples de la Gaule, sur leurs coutumes, leur langage, leurs croyances et même leurs outils. Il ne voulait pas et par conséquent ne pouvait pas voir tout ce que cette vie offrait d'original. Et nous faisons de même. Nous ne voyons que ce qu'ils imitent de nous. Le reste, nous l'effaçons. Nous le détruisons à jamais pour dire ensuite « ça n'a pas existé ». Le cardinal, qui n'a pas interrompu le dominicain, semble attentif à cette argumentation nouvelle qui s'intéresse aux coutumes des peuples. Il fait remarquer qu'il s'agit là d'un terrain de discussion des plus délicats, où nous risquons d'être constamment ensorcelés par l'habitude, prise depuis l'enfance, que nous avons de nos propres usages, lesquels nous semblent de ce fait très supérieurs aux usages des autres. Sauf quand il s'agit d'esclaves nés, dit le philosophe. Car on voit bien que les Indiens ont voulu presque aussitôt acquérir nos armes et nos vêtements. Certains d'entre eux, oui sans doute, répond le cardinal. Encore qu'ils soient malaisés de distinguer dans leurs motifs ce qui relève d'une admiration sincère ou de la simple flagornerie. Quelles autres marques d'esclavage naturel avez-vous relevées chez eux ? Sepúlveda prend une liasse de feuillets et commence une lecture faite à voix plate, comme un compte-rendu précis, indiscutable. Ils ignorent l'usage du métal, des armes à feu et de la roue. Ils portent leur fardeau sur le dos, comme des bêtes, pendant de longs parcours. Leur nourriture est détestable, semblable à celle des animaux. Ils se peignent grossièrement le corps et adorent des idoles affreuses. Je ne reviens pas sur les sacrifices humains, qui sont la marque la plus haïssable et la plus offensante à Dieu de leur état. Las Casas ne parle pas pour le moment. Il se contente de prendre quelques notes. Tout cela ne le surprend pas. J'ajoute qu'on les décrit stupides, comme nos enfants ou nos idiots. Ils changent très fréquemment de femme, ce qui est un signe très vrai de sauvagerie. Ils ignorent de toute évidence la noblesse et l'élévation du beau sacrement du mariage. Ils sont timides et lâches à la guerre. Ils ignorent aussi la nature de l'argent et n'ont aucune idée de la valeur respective des choses. Par exemple, ils échangeaient contre de l'or le verre cassé des barils. « Eh bien !» s'écrie Las Casas. « Parce qu'ils n'adorent pas l'or et l'argent, au point de leur sacrifier corps et âme, est-ce une raison pour les traiter de bêtes ? N'est-ce pas plutôt le contraire ?»« Vous déviez ma pensée, » répond le philosophe. Et pourquoi jugez-vous leur nourriture détestable? Y avez-vous goûté? N'est-ce pas plutôt à eux de dire ce qui leur semble bon ou moins bon? Parce qu'une nourriture est différente de la nôtre, doit-on la trouver répugnante? Ils mangent des œufs de fourmis, des tripes d'oiseaux. Nous mangeons des tripes de porc et des escargots. Ils se sont jetés sur le vin des Sepúlveda, au point, dans bien des cas, d'y laisser un peu de raison. Et nous avons tout fait pour les y encourager. Mais ne vous a-t-on pas appris, d'un autre côté, qu'ils cultivent des fruits et des légumes qui, jusqu'ici, nous étaient inconnus, et que certains de leurs tubercules sont délicieux? Vous dites qu'ils portent leur fardeau sur le dos. Ignorez-vous que la nature ne leur a donné aucun animal qui pût le faire à leur place ? Quant à se peindre grossièrement le corps, qu'en savez-vous ? Que signifie le mot « grossier » ? Frère Bartholomé, dit le légat, vous aurez de nouveau la parole aussi longtemps que vous voudrez. Rien ne sera laissé dans l'ombre, je vous l'assure. Mais pour le moment, restez silencieux. La controverse de Valladolid, un extrait du roman de Jean-Claude Carrière.